Le bulletin du handicap. Bonjour, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce jeudi 23 juillet 2015. Fin de la distribution du courrier, une situation inquiétante. Grande première mondiale, un malvoyant se fait greffer un œil bionique. En France, l'accessibilité des lieux publics sont des promesses non tenues. Des camps de jour pour des enfants avec des besoins particuliers qui sont appréciés. Et au sport, à l'Open mondial de boccia, le Québec s'est qualifié. Quelques jours après l'annonce de Post Canada de cesser dès 2016 la livraison du courrier à domicile à Louisville, les réactions fusent de toutes parts. Les organismes de soutien aux personnes malades et à mobilité réduite, ainsi que le milieu politique, se désolent de cette disparition de service. Le directeur de l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé dit « La nouvelle vient tout juste de sortir, nous ne savons pas encore à quel endroit les boîtes seront situées, si elles seront accessibles pour les fauteuils roulants. C'est une situation qui n'aide pas les personnes à mobilité réduite. On trouve qu'il manque d'informations. On n'a pas encore envisagé de démarche d'accompagnement pour ces personnes, mais en septembre, nous allons regarder le dossier de plus près. Son organisme n'est pas le seul à trouver la situation préoccupante. La directrice générale de l'appui Mauricie, Florence Poquet, a une pensée pour les personnes qui viennent en aide aux malades et aux aînés en perte d'autonomie. Elle raconte... C'est une tâche de plus pour les proches aidants. La fin du courrier à domicile signifie aussi la disparition d'un élément de protection. Il y a un lien de proximité entre le facteur et les personnes plus âgées. Le fait que ce dernier passait une fois par jour rassurait plusieurs aînés. Si, par exemple, le facteur constatait qu'une personne âgée n'avait pas pris son courrier depuis plusieurs jours, il cognait à la porte pour voir si rien de grave ne s'était pas produit. Madame Poquet poursuit en disant « Par ailleurs, il faut savoir que l'appui offre un soutien financier pour les projets venant en aide aux personnes proches aidantes. S'il y a des demandes pour créer un projet unique afin de les soulager de cette tâche, on regardera alors si cela est finançable. » Sur la scène politique, la députée fédérale Ruth-Hélène Brousseau a dénoncé une fois de plus cette décision prise par le gouvernement du Canada. En marchant dans la rue cette fin de semaine, j'ai parlé à plusieurs citoyens et tous sont choqués par la nouvelle. Je suis très préoccupé pour les personnes à mobilité réduite. La politicienne croit que d'autres scénarios auraient pu être envisagés, considérant la rentabilité de Post Canada. Elle raconte « Il y a des choses qu'on peut faire, on peut s'inspirer de la Suisse et de la France. On ne veut pas être le seul pays du G7 incapable de livrer le courrier à domicile. » Pour nous, les néo-démocrates, c'est important de dénoncer la situation. On s'engage à rétablir la livraison à domicile si notre parti est porté au pouvoir en octobre prochain. La représentante de Berthier-Masquinongé affirme avoir rencontré plusieurs organismes et élus municipaux depuis 2 ans. Au sujet des changements chez Post Canada, elle ajoute « Des assemblées de consultation à cet effet ont été organisées dans ma circonscription. La plupart des conseils municipaux dénoncent ces changements. On veut aussi que les bureaux de poste en région soient préservés. » C'est un texte de Jonathan Sirène pour Le Nouvelliste. Il s'appelle Ray Flynn, il est âgé de 80 ans et il est désormais le premier homme atteint de dégénérescence maculaire, porteur d'un œil bionique. Ce retraité de Manchester, en Grande-Bretagne, souffrait de la forme sèche de dégénérescence maculaire liée à l'âge depuis 8 ans, ce qui l'a conduit à perdre complètement la vision centrale. Les chirurgiens de l'hôpital Royal High de Manchester lui ont donc proposé de devenir le premier patient porteur d'Argus II, un implant fabriqué par la firme américaine Second Sight. L'opération a duré 4 heures et a été dirigée par le professeur Polo Stanga, chirurgien ophtalmologiste de l'hôpital de Manchester et professeur d'ophtalmologie et de la régénération de la rétine à l'Université de Manchester. L'implant oculaire bionique greffé sur la rétine reçoit des informations visuelles depuis une micro-caméra installée sur une paire de lunettes portée par le patient. Les images sont converties en impulsions électriques et transmises sans fil à un réseau d'électrodes attachées à la rétine. Les électrodes stimulent les cellules restantes de la rétine qui envoient à leur tour l'information au cerveau. Selon le chirurgien, cette première greffe est un succès. Monsieur Flynn peut désormais percevoir les contours des personnes et des objets très efficacement. L'implant ne peut fournir une vision très détaillée, mais les informations qu'il envoie suffisent au patient pour se diriger seul car il distingue les formes et les obstacles. Ce premier patient greffé a d'ailleurs pu reprendre avec bonheur son activité de jardinage. 4 autres patients devraient également être greffés. Ils seront suivis pendant 3 ans afin de déterminer si cet œil bionique peut devenir un traitement reconnu de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Rappelons que l'hôpital Rosemont-Maisonneuve s'est également doté de cette technologie. Je vous en faisais la lecture un peu plus tôt cette semaine au bulletin. C'est un texte de La Dépêche. La Fédération des aveugles de France a condamné aujourd'hui les reculs et promesses non tenues du gouvernement et des parlementaires après la ratification de l'ordonnance prévoyant de nouveaux délais pour la mise en accessibilité des lieux publics. Dans un communiqué, la Fédération accuse le gouvernement français et les élus de compromission inacceptable et juge totalement insupportable de voir les députés et sénateurs faire fi du quotidien des personnes handicapées. La fédération en question ajoute « 40 ans après les premières mesures dédiées à l'intégration sociale des personnes handicapées, il est tout à fait inacceptable de constater autant de reculs et de promesses non tenues de la part de la République. Ces nouveaux délais pour rendre accessibles les lieux publics en France représentent aux yeux de ses membres une énième déception pour des millions de citoyens qui ont à juste titre le sentiment d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. » La loi Handicap de 2005 fixait au 1er janvier 2015 l'échéance en matière d'accessibilité des lieux et transports publics. L'ordonnance du 26 septembre 2014, définitivement ratifiée mardi dernier, tire les conséquences du non-respect de cette échéance. C'est un texte du Figaro avec l'association France Presse. Des jeunes avec des besoins particuliers vivent une expérience de camp de jour avec d'autres enfants cette année à Joliette. Une quinzaine de familles sont rejointes par ce projet inclusif qui a démarré en 2013. Le camp de jour, qui est ouvert de juin à septembre, permet aux autres jeunes d'apprivoiser la différence. Le service s'adresse à des jeunes de 5 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, physique ou ayant reçu un diagnostic du spectre de l'autisme et nécessitant un accompagnement dans la vie de tous les jours. Le projet est né par l'entremise d'une intervenante du Centre de santé et des services sociaux du nord de la Naudière qui a identifié des besoins en matière de répit et d'activités estivales pour les jeunes en question. 7 jeunes y ont participé en 2013. L'année suivante, un volet intégration fut ajouté. Cela s'est traduit par l'accompagnement en camp de jour régulier. 13 jeunes en ont alors bénéficié. Ce service de proximité s'avère essentiel pour les familles d'enfants ayant des besoins particuliers. Il permet une mise en commun de l'expertise et des compétences de chaque milieu. L'engagement et la contribution de différents partenaires permettent ce camp de jour. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de La Naudière, le CLSC de Saint-Gabriel et les services de loisirs de Mandeville, Saint-Gabriel et Saint-Damien-de-Brandon sont du nombre. On compte aussi les Répits de Gabi, la Société de l'autisme Région La Naudière, le camp de jour, les Trois Pinottes, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de La Naudière, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et le Centre de réadaptation comme des partenaires. C'est un texte de Pierre Bellemare pour le journal L'Action de Joliette. Et finalement, en sport, à leur dernier match de la ronde préliminaire à l'Open mondial de Boccia, Marco Di Spaltro et Julian Ciobanu ont signé une victoire, tandis que l'autre Québécoise, Alison Levin, a essuyé un revers à Séoul mercredi dans la capitale coréenne. Les trois Québécois ont donc assuré leur place en ronde éliminatoire du tableau individuel des BC4 en raison de leur différentiel de points pour et de points contre depuis le début du tournoi. Marco Di Spaltro a d'abord souligné le travail de son coéquipier vétéran et médaillé paralympique. Julian mérite des félicitations car il accède à la ronde préliminaire qui participe à son premier tournoi international. Jeudi, Levin et Di Spaltro s'affronteront en quart de finale, donc aujourd'hui. Le nom de l'adversaire de Ciobanu n'était pas connu au moment d'écrire ces lignes. C'était un texte de Mathieu Laberge pour Sportcom. Donc c'est tout pour le bulletin aujourd'hui. Les organismes intéressés peuvent nous envoyer leurs nouvelles à canalem@visevoix.com. Merci d'avoir été là et je vous dis donc à demain.